De Metz à
Thionville.
Thionville avec RPL 89.2.
Nous sommes en compagnie de Jean-Louis pour sa nouvelle émission Au fil de l'eau. Le thème cette semaine, à la découverte des dinosaures de Lorraine. Bonjour messieurs.
Bonjour Géraldine et bonjour à tous les auditeurs. Donc juste un petit truc avant de présenter notre invité, notre illustre invité. N'hésitez pas à nous contacter pour justement converser et puis poser des questions sur qu'est-ce qu'un dinosaure, qu'est-ce qu'une grosse bébête a été faire et se perdre en Lorraine. Ben, on va le savoir tout de suite. Donc si vous avez oublié comment faire pour nous contacter, ben, Géraldine va se faire un plaisir de vous le rappeler.
Pour nous contacter, 03 87 76 31, deux fois, nous sommes là avec vous et notre invité.
Mais j'ai un petit truc à faire parce qu'on est le 8 mars, hein, donc c'est la journée des droits de la femme. Donc bonne fête à toutes les femmes et surtout à vos droits qui sont importants. Et maintenant, on revient à nos dinosaures, hein, puisque là, j'avais les petits dinosaures, mais là, nous avons juste à côté de moi, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Jean-Philippe Blouet.
Bonjour.
Bonjour, Jean-Philippe. Ton frère n'est pas là, hein, François-Xavier, puisque moi, j'ai toujours l'habitude de présenter les frères Blouet en disant que la France a eu les frères Bogdanov. Nous, on a la chance d'avoir les Blouet. Bien sûr, le prestige des Bogdanov peut-être n'est pas encore avec les Blouets.
Non, mais j'espère mais qu'on n'a pas encore le physique bien. Des Bogdanov non plus, tu vois.
C'est... Ah bah oui, mais bon, ils ont commencé à redevenir dinosaures quand même. Hein.
Oui.
Bon,
passons. Moi, je préfère les chercher qu'en devenir un.
Voilà, bah alors bah justement, Jean-Philippe, ton métier,
oui. Alors,
les
moi...
dinosaures, c'est quoi pour toi?
Moi, je suis un scientifique explorateur, si tu veux, et je partage ma passion pour l'histoire de la vie sur Terre et pour chercher des fossiles en organisant des expositions en collaboration avec des musées, en organisant des voyages d'expéditions scientifiques sur le terrain aussi, et puis en partageant ma passion avec le grand public en faisant des voyages naturalistes, soit dans la région ici en Lorraine, soit au bout du monde, notamment au Spitzberg.
D'accord. Mais t'es venu comment à la recherche des dinosaures ?
Alors, depuis tout petit, je suis passionné par la recherche de fossiles. Ça a commencé à Marbache, donc en périphérie de Nancy, ou dans le jardin de mes grands-parents. On trouve pas mal de petits fossiles qui datent du milieu du Jurassique. Et d'après ce que m'ont dit mes parents et mes grands-parents, dès l'âge de 4 ans, je commençais à accumuler des pierres dans le jardin, de plus en plus grosses, et la passion ne m'a jamais quitté.
D'accord. Moi, je me rappelle que mon grand-père... Il me disait, va ramasser les cailloux, mais ce n'était pas pour les dinosaures, c'était pour nettoyer son jardin. Si j'avais su, je les aurais ramenés.
Voilà, mais ce n'est pas n'importe lesquels que je ramassais. Et si tu veux, cette passion, au début, comme beaucoup d'enfants, tu vois, c'est comme une chasse au trésor. Tu collectionnes des fossiles comme des petits trésors. Et puis petit à petit, en remarquant qu'il y a plus de certains fossiles à un endroit plutôt qu'à un autre, tu te mets à faire des raisonnements naturalistes. À dire, mais attends, pourquoi est-ce que je trouve des coquillages fossilisés à tel endroit? Pourquoi je trouve une autre espèce, par exemple des ammonites, à tel autre endroit? Et petit à petit, c'est comme ça que tu commences à faire un raisonnement qu'on peut vraiment appeler naturaliste, comme on pourrait le faire dans la nature actuelle, mais dans les animaux fossiles dans la pierre.
D'accord, donc on parle de cailloux. Toi, tu es, on va dire, paléontologue.
Alors, ouais, j'ai...
Alors, c'est quoi un paléontologue ?
Pour être exact, j'ai une formation de géologue. Donc, les gens associent souvent le métier de géologue et de paléontologue. Donc, ça peut me donner l'occasion de clarifier cela. Un géologue, c'est quelqu'un qui va étudier les roches. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Géos, c'est la terre, et le discours sur la terre. Et donc, ma spécialité, c'est d'étudier les roches dans leur intégralité, y compris les fossiles qui sont à l'intérieur. Donc, on pourrait comparer ça dans le monde actuel à quelqu'un qui fait de l'écologie, il étudie tout un paysage, et y compris les animaux à l'intérieur de ce paysage. Alors qu'un paléontologue va être, lui, plus spécialisé dans l'étude des fossiles, peut-être comme un vétérinaire actuel serait vraiment spécialisé dans l'étude des animaux eux-mêmes. Mmh. Donc tu vois, moi, en tant que géologue, j'ai probablement une approche plus généraliste et plus vaste qu'un paléontologue qui va être plus focalisé sur le fossile en tant que tel.
D'accord. Donc ton frère, lui, il est préparateur.
Alors oui, depuis qu'on est tout petit, moi, là, je partage cette passion avec mon frère. Et autant moi, j'ai suivi des études universitaires dans le domaine de la géologie, autant mon frère, lui, s'est spécialisé dans la préparation des fossiles. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais quand tu trouves un fossile dans la nature, la plupart du temps, même si je te montrais un incroyable fossile de dinosaure, tu reconnaîtrais à peine parce que l'état brut, c'est donc à peine visible. Donc le travail de préparation, c'est tout ce qui consiste à extraire le fossile de la roche avec des outils pour en faire, par exemple, les beaux squelettes que tu vois dans les musées. Ça a commencé par un bloc qui ressemblait à une bordure de trottoir souvent. Donc il y a pas mal de travail entre-temps et ça, c'est la préparation de fossiles.
Voilà, donc ça, on en parlera un peu plus tard avec ton frère puisque là, je pense qu'il est en expédition.
Là, il est en voyage en Écosse où il m'a envoyé une photo où il a trouvé un superbe tronc d'arbre fossilisé du Carbonifère sur la plage. Là. Donc tu vois, on ne peut pas s'empêcher de trouver des fossiles partout où on va.
Oui, j'ai remarqué ça parce que l'autre fois, tu m'as envoyé une petite vidéo où tu étais, alors là, c'est extraordinaire, dans le métro du Luxembourg et tu as trouvé des fossiles de...
Le métro de Bruxelles, la semaine dernière, j'étais à Bruxelles, rendre visite à des amis. Et c'est vrai que la plupart des géologues, on a vraiment un œil qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher à chaque fois qu'on voit un caillou de regarder son histoire, de voir les fossiles à l'intérieur. Par exemple, à Bruxelles, qui est une belle ville avec plein de parements, de pierres dans le métro, pour moi, c'est comme une galerie d'art. Je vois des fossiles partout au mur, tu vois. Et c'est vrai que j'en parlais à des gens qui passaient dans le métro. Je leur disais, regardez, là, il y a une super ammonite, là, il y a un fossile de corail. Et ça fait halluciner les gens, souvent.
Ah, ils n'ont pas été étonnés, interloqués, que tu leur dis ça, qu'il y a ça. Parce que c'est vrai, on ne regarde pas, hein, c'est comme les médecins.
Tu vois, que ça soit dans un environnement complètement artificiel, dans le métro ou dans la nature, dans un champ en Lorraine, souvent, quand tu fais prendre conscience aux gens qui marchent sur des fossiles qui ont plusieurs centaines de millions d'années et que tu leur montres les détails qui leur font comprendre par eux-mêmes que, par exemple, il y avait des récifs de coraux en Lorraine au Jurassique, c'est là que tu crées un effet de surprise, un effet waouh. Les gens disent, mais c'est incroyable, j'avais jamais remarqué ça alors que j'habite là depuis toujours, et cet effet de surprise, c'est ça qui passionne les gens.
Et est-ce que tu as eu des retombées là-dessus? Est-ce que les responsables du métro t'ont contacté? Parce que ça a dû être étonnant par eux.
Je me suis amusé à faire une petite vidéo que j'ai partagée sur les réseaux sociaux à propos de ce que j'avais croisé dans le métro de Bruxelles. Et puis, la responsable du département culturel du métro qui a repartagé la vidéo. Donc, je vais probablement la contacter pour le dire. Si vous avez trouvé ça rigolo, on peut peut-être organiser une exposition à ce propos. Tu vois, moi, quand je fais des expositions sur les fossiles, j'aime bien casser les codes. Tu peux faire une exposition sur l'histoire de la vie sur Terre dans un musée d'histoire naturelle. Bon, là, c'est attendu. Mais tu peux aussi en faire dans des lieux plus décalés où justement tu vas jouer sur cet effet de décalage entre l'histoire de la vie sur Terre, cette pérennité, l'éternité que tu racontes, et un lieu qui va sembler décalé, comme le métro, tu vois, c'est un lieu où il y a du flux, il y a de la vitesse, et dans les murs, tu as des objets statiques qui sont là depuis des centaines de millions d'années. C'est ça que j'aime bien, en fait, introduire une dose de poésie, de surprenant. Par exemple, tu te souviens peut-être qu'il y a 2 ans, j'avais organisé au Jardin botanique de Nancy,
avec nous,
au Jardin Jean-Marie Pelt, avec vous, une exposition qui s'appelait « Dinosaures ». Et on avait mis en scène des dinosaures dans le style de Jurassic Park dans les serres, tout en expliquant aussi quelle était l'histoire de la vie sur Terre, quel lien ça avait avec la Lorraine. Et tu vois, a priori, organiser une exposition sur les fossiles dans un jardin botanique, c'est pas ce qui est le plus évident. Alors qu'en fait, ça avait super bien marché et on avait trouvé des connexions logiques et évidentes.
Donc, si on revient à Nancy avec cette exposition, c'était les dinosaures terrestres. Et en même temps, on avait à Lille-sur-Seille le Big Bangalum et on avait des dinosaures marin. Tu peux m'expliquer la différence?
Tu fais bien de mentionner ça. On avait organisé une exposition à Vic-sur-Seille où j'avais exposé donc des reptiles marins, pour être exact, puisque tu me demandes la différence. Alors, les dinosaures, nous, souvent, les gens associent ça à tous les gros animaux avec des grandes dents dans les temps préhistoriques. En fait, ça répond à une définition biologique précise, si tu veux, quand même. Hein, c'est une catégorie d'organismes. Et les reptiles marins, par exemple, le plésiosaure qui ressemble au monstre du Loch Ness, tu vois, avec son long cou, ou l'ichthyosaure, littéralement en grec, ichthyo c'est poisson et zoor reptile, donc le poisson reptile, ces animaux qui ressemblaient aux cétacés actuels, donc de la taille d'un dauphin jusqu'à la taille d'un cachalot. Tous ces animaux-là, c'est aussi dans le grand groupe des reptiles, mais c'est pas des dinosaures, quoi. C'est un autre embranchement du vivant. Et en Lorraine, puisque on est sur des terrains qui datent du début de l'ère secondaire, du début de l'ère dinosaure, on a passé la plupart de cette époque sous l'eau. Et donc, on trouve beaucoup de fossiles de reptiles marins, qui sont très spectaculaires, mais qui ne sont pas forcément des fossiles de dinosaures sensu stricto.
D'accord. Donc maintenant, on revient un peu en Lorraine. Donc, sous l'eau, tu dis. Donc on était combien de temps sous l'eau? C'était quoi? C'était une mer, une plage? C'était quoi?
Alors à partir de... Donc la Lorraine a une longue histoire. On a des, si tu veux, si on part depuis les Vosges, on va avoir des terrains qui ont à peu près 250 millions d'années. Et ils rajeunissent progressivement en allant jusque Toul et en passant par Nancy et Metz. Ils rajeunissent jusqu'à à peu près 150 millions d'années. Donc on a voilà, une centaine de millions d'années de sédiments qui sont présents dans la région. Et tout au long de cette période, la plupart du temps, on était sous l'eau. Et donc on a des sédiments marins qui se sont déposés. Et c'est pour ça qu'on retrouve des fossiles marins dans la région.
Alors mais pourquoi il n'y a plus d'eau maintenant?
C'est une excellente question qui a questionné les géologues pendant longtemps. Mais pourquoi donc est-ce qu'on trouve des fossiles marins sur la terre ferme? Alors les premières hypothèses, c'était de se dire que le déluge biblique avait répandu des animaux marins partout à la surface de la Terre. C'est une explication assez simple. Et puis, petit à petit, les explications ont évolué. Et aujourd'hui, pour faire simple, on pense que la croûte terrestre s'est affaissée progressivement pendant tout au long de l'époque des dinosaures dans la région. Et donc, la mer a submergé le continent. Et puis, depuis la fin de l'ère secondaire, le processus s'est inversé pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien. Et donc... la région est repassée au-dessus du niveau de la mer. Et donc, à l'époque, dinosaures ont déposé des sédiments dans la région, et maintenant, au contraire, ils s'érodent. Et tu vois bien le relief autour de nous. À chaque fois qu'il pleut, les terrains sont érodés, la boue est drainée par les rivières jusqu'à l'océan. Et donc, maintenant, on est dans un mouvement érosif, alors qu'à l'époque, dinosaures, on sédimentait des roches.
Donc, on peut dire que les dinosaures de Lorraine reviennent.
Eh ben, ils ont été enfouis à l'époque dinosaure et maintenant ils sont exhumés. Ouais. Tu les trouves à la surface. Donc ils sont en voie de destruction. Là. Quand tu trouves un fossile à la surface du sol, ben, il poursuit son grand cycle d'enfouissement. Il a été mis au frais pendant 150 millions d'années. Là, il ressort et tu es poussière et tu redeviendras poussière. Là, c'est le moment ultime. Tous ceux que tu vois à la surface, hein, ils sont en train de redevenir poussière.
D'accord. Mais pourquoi on ne creuse pas alors pour, on ne peut pas les trouver sans attendre qu'ils y reviennent?
Ah mais si, d'ailleurs, tous les fossiles que j'ai trouvés dans la région, peut-être qu'on en parlera après de certains spécimens, je les ai trouvés parce qu'un os ou un élément de la coquille était visible à la surface du sol. Si tu creuses dans l'espoir de tomber dessus, tu n'en finiras jamais, tu vois, c'est presque impossible. Il faut forcément qu'il y ait une partie qui apparaisse à la surface pour déterminer, là, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, c'est là tout l'apport de l'œil du géologue, qui, à partir d'un petit morceau qui dépasse, va te dire « Hé, là, il y a un super squelette, là, juste là, sous vos pieds. » Et c'est ça aussi, souvent, qui crée un élément de surprise avec les gens. Tu vois, tu leur dis « Regardez, là, j'ai trouvé un petit morceau d'os fossile. » Bon, déjà, c'est pas forcément hyper visuel. Puis t'en trouves un, t'en trouves deux. Et comme le petit poussait, tu t'en finis par trouver un paquet et te dis « Voilà, quelque part ici, il y a un squelette, puisque je vois plein d'éléments qui se dégradent à la surface. » Donc, il y a sûrement quelque chose à cet endroit-là.
Ouais, ça, je me souviens de la visite au domaine de Sainte-Croix, où on a perdu le fil, puisque tous les deux minutes, tu me disais, regarde ici, il y a ça, regarde ici, il y a ça. J'étais passé trois fois devant, je n'avais pas vu la petite étoile.
Exactement ça. Donc là, dans cette région-là, tu vois, on est plus proche du côté des Vosges. Donc, c'est des sédiments anciens qui ont à peu près 240 millions d'années, qui datent donc de l'ère du Trias, début de l'époque des dinosaures. Et là, on était à l'époque sous une mer peu profonde, où on trouve donc toute une variété d'animaux qui vivaient dans un écosystème d'une mer peu profonde et chaude. Donc tu as des coquillages, des mollusques bivalves, des ammonites, aussi ce que les gens appellent des étoiles de Sion. Ça, je sais que souvent les gens font référence en Lorraine à ça. C'est ces petites étoiles qu'on trouve à Sion et dans de nombreux autres endroits.
C'est des squelettes,
squelette. Alors qu'est-ce que c'est ça?
C'est pas des étoiles.
Ces fameuses étoiles, c'est ce qu'on appelle les crinoïdes. Donc chaque étoile, elles étaient empilées les unes sur les autres et elles formaient la tige d'un animal qui ressemblait à une fleur. D'ailleurs, on appelle ça un lys de mer aujourd'hui. Alors c'est bien un animal. Donc visualise une fleur avec l'équivalent d'une tige formée de l'empilement d'étoiles. Et au sommet, un calice avec des bras qui s'ouvraient face au courant marin et qui filtraient le plancton pour le diriger à la bouche qui se trouvait au milieu du calice, au milieu de la fleur, si tu veux. Et alors, donc c'est vraiment un animal avec une forme très étrange, mais dans les petites étoiles qui s'empilent, qui ont cinq branches, tu reconnais la géométrie que tu trouves dans le groupe des échinodermes aujourd'hui, c'est-à-dire les étoiles de mer, les oursins, les concombres de mer. Donc voilà, c'est bien un animal, le lys de mer, affilié à tout ce groupe, mais avec une forme vraiment étrange.
D'accord. Bah oui, on en donne toujours le nom. Quand on ne connaît pas, on donne un nom. Puis
en crine, voilà, les petites étoiles de Sion.
Mais c'est bien.
Et donc, c'était un groupe d'animaux qui était très répandu pendant toute l'époque des dinosaures. C'est pour ça qu'on en trouve des fossiles assez communément, y compris en Lorraine. Et aujourd'hui, ils existent encore, mais à l'état relictuel, dans les grandes profondeurs océaniques. Donc ça fait partie de ces fossiles qui étaient connus depuis toujours à l'état fossile. Tu vois, depuis toujours, les gens ramassent des petites étoiles sur le sol. Mais c'est que bien plus récemment qu'on a découvert l'équivalent actuel dans la nature.
D'accord, oui, c'est à peu près de la même famille que les cerviantes, etc.
Alors, il y a eu les ophiures, tout, voilà. Tout ça.
Ok. Donc si je comprends bien, il y a 15 jours avant toi, on avait des guides nature, hein, Stéphane Corbeil et puis Fabrice André. Donc moi, je peux te considérer comme un guide nature, mais de la préhistoire.
Exactement. Hein? Tu vois, comme à Saint-Croix, là, on se baladait. Mais
raconte-nous tes histoires.
Au lieu de se promener, au lieu de voir la forêt qui nous entoure aujourd'hui, moi, je vois les roches. Et quand je me promène dans la nature à Saint-Croix, en l'occurrence, je me balade dans une mer tropicale il y a 240 millions d'années. Et je vois, par exemple, le sable qui correspondait à une plage. Je vois un groupe de bivalves qui correspondait peut-être à un environnement plus profond où il y avait d'autres animaux qui se développaient. Donc, tu peux vraiment faire de l'écologie dans le passé, quoi. Et tu peux vraiment visualiser un environnement disparu en te promenant dans la nature. Donc ça donne un peu une vision en quatre dimensions, quoi. C'est-à-dire que quand je me balade dans la nature, je vois évidemment l'environnement d'aujourd'hui, puis je vois aussi l'environnement passé, et parfois assez finement. Sur les hauteurs de Nancy, par exemple, sur la forêt de Haye ou sur le plateau de Malzéville, là, tu as des récifs de coraux fossilisés. Donc ça surprend toujours les gens, tu vois. Je les emmène sur le terrain, je dis « Regardez, un corail fossilisé !» Après, ils regardent de près, ils font « Mais oui, c'est vrai que ça ressemble à un corail, on n'a jamais fait gaffe. » Maintenant, levez les yeux, en fait, devant vous, toute cette montagne, c'est un récif, en fait. Tu vois ?
Ah oui, mais alors tu les fais rêver. Alors raconte-nous, fais-nous rêver aujourd'hui, c'est le but de cette émission. Fais-nous rêver, raconte-nous voir une exposition.
Je peux te raconter une de mes plus belles découvertes en Lorraine, par exemple. Donc c'était sur le chantier du TGV. J'étais encore petit à l'époque, hein. Je sais pas, j'étais ado, j'avais... Entre 10 et 15 ans, quand il y avait ça qui se creusait. J'étais déjà passionné de fossiles. Et évidemment, j'allais sur le bord du chantier pour chercher des fossiles. Et c'est un des premiers endroits où j'ai trouvé des squelettes. Donc tu vois, trouver des coquillages fossiles, c'est une chose. Mais trouver un squelette, c'est un autre niveau. Tu seras d'accord avec moi.
Tout à fait.
Donc ça a été mon premier squelette d'ichthyosaure que j'ai trouvé avec mon frère. Donc ichthyosaure, c'est ce fameux poisson reptile, hein, des animaux qui ressemblaient à des dauphins. Et je savais qu'on pouvait en trouver dans la région parce que ça a été déjà décrit, des découvertes historiques, tu vois, anciennes, ça me faisait rêver, mais pour moi c'était inaccessible. Et là sur ce chantier, j'ai réussi à reconnaître un petit morceau d'os. Donc si tu veux, sur le morceau de roche, j'ai vu la porosité que t'as quand tu casses un os de poulet, tu vois, cet aspect fibreux. J'ai reconnu ça, et en creusant un petit peu, voilà, j'ai vu les dents sortir, et après tout le squelette, tu vois. Donc ça, c'est vraiment des émotions que t'oublies pas. Quand je dis tout le squelette, attention, moi je l'ai reconnu, mais sur le terrain, ça veut dire que je voyais des morceaux d'os qui sortaient des blocs de pierre.
Oui, voilà, c'est pas un squelette. Voilà.
C'était pas comme dans Jurassic Park où tu passes le coup de pinceau et t'as la tête qui sort devant toi.
Ouais, c'est ça.
Néanmoins, voilà, j'ai ressenti cette émotion d'être en face de la bête, de faire la découverte. Tu vois, t'es gamin, tu trouves un ichthyosaure fossilisé, tu vois les dents, t'hallucines, quoi. Donc ça, si tu veux, j'ai appris à collecter aussi sur le terrain ces spécimens là, parce que quand t'as des blocs de pierre qui s'effritent avec des morceaux d'os partout, tu vois, tu peux vite être perdu, ramasser ça n'importe comment. Donc nous, on injecte de la superglue là-dedans qu'on retire après avec des méthodes physiques ou chimiques. Et puis voilà, j'ai passé après un temps considérable avec mon frère à préparer ce spécimen. Et aujourd'hui, voilà, tu peux voir l'ichthyosaure les yeux dans les yeux, comme dans un musée, tu vois, la tête est sortie de la pierre.
C'est celui qu'on avait exposé la première fois.
Voilà, on a déjà exposé ensemble un certain nombre de fois.
À la semaine des biodiversités à Marly.
Donc ça, voilà, ça, c'est une découverte qui m'a marqué. Bon, il y en a beaucoup d'autres, hein. Qu'est-ce que je pourrais te raconter ? Dans la région, ce qui est fameux, c'est des grosses ammonites géantes qu'on trouve en périphérie de Metz. Quand on se dit géant, ça va être autour d'un mètre de diamètre maximum. Donc les ammonites, c'est ces animaux avec une coquille spiralée qui ressemble au nautile actuel, qui était très commun tout au long de l'époque des dinosaures et qui ont disparu. Aujourd'hui, il ne reste plus que les nautiles qui sont l'équivalent.
Mm-hmm.
Quand on trouve une d'un mètre de diamètre, tu vois, à l'état brut, dans un pavé de calcaire qui fait 40 cm d'épaisseur...
Déjà,
tu marches dessus parce que ce n'est pas évident à voir. Ouais. Après, je te laisse faire un petit calcul du poids du bloc de pierre, tu vois. Donc évidemment, chercher des fossiles, ça donne aussi naissance à des bons moments comme ça.
Je connais le poids parce qu'on les a assez portés.
T'en as porté quelques-unes, voilà, tu vois, entre potes, on dit « Ouais, on a trouvé une ammonite géante, super !» Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, tu vois ? Comment on la transporte ?
Donc après, c'est le travail. Il y a combien d'heures de travail?
Oui, parce qu'elle est à brut. Voilà, ça n'a aucun pouvoir visuel ni même scientifique parce qu'on voit pas grand chose. Donc pour dégager dans l'atelier une grosse harmonite comme ça, je dirais qu'il faut presque 15 jours de travail. Tu vois. Et après, c'est très variable le temps que tu passes à préparer des fossiles. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Les plus ceux qui sont des fois très enfermés dans une pierre très dure sont pas forcément les plus compliqués à préparer, parce que nous on utilise des petits outils qu'on appelle les micro-percuteurs, qui sont comme un marteau-piqueur mais de la taille d'un crayon. Et des fois dans une roche très dure ça va très bien marcher, alors que dans une roche molle au contraire la roche va coller à la surface du fossile, et là il faudra prendre plus de temps et prendre plus de précautions. Donc c'est très difficile de déterminer le temps que tu passes à préparer un fossile, c'est cas par cas, c'est artisanal.
Et je me souviens on va prendre référence à notre belle exposition du Big Mangalom, il y avait une pièce vraiment unique. Et là, c'était phénoménal, cette femelle ichthyosaure avec ses petits.
Ah, oui,
tu peux me raconter cette histoire-là, parce que ça a passionné tout le monde. Et je suis sûr que...
Donc encore un ichthyosaure, ouais. Hein, tu vois, c'est un peu notre animal fétiche, ce reptile marin.
Ah, c'est le graouli, tout le monde pense que c'est le graouli. Donc,
on y reviendra. Donc c'est l'ichthyosaure dont...
tu nous raconteras tout ça.
L'ichthyosaure auquel tu fais référence, qu'on avait exposé à Vic-sur-Seille. Mmh. En l'occurrence, c'était juste une cage thoracique. Donc on avait trouvé sur une plage en Angleterre une dalle sur laquelle on voyait des os qui sortaient au bord de la dalle. Donc, comme on a l'habitude, on a assez vite compris que c'était des os d'ichthyosaure et que ça correspondait à la région de la cage thoracique. Donc ça reste un beau fossile, si tu veux, mais dans la mesure où il n'y a ni la tête ni la queue, bon, c'est un bout de cage thoracique. Nous, maintenant qu'on en a trouvé un certain nombre, ce n'était pas notre priorité de le préparer à l'atelier pour y passer du temps. Donc il est resté stocké un certain temps dans notre atelier sans qu'on travaille dessus. Puis un jour, mon frère s'y est mis. Et en retirant la pierre, il s'est rendu compte qu'il y avait des petits squelettes dans la cage thoracique. Et donc là, énorme surprise, quoi. Tu vois, au début, tu crois pas trop. Tu te dis, tiens, c'est bizarre, il y a des petits os là-dedans, qu'est-ce que c'est? Ça te met un certain temps à cogiter dans le cerveau pendant que tu travailles. Et en fait, bah, il s'est avéré que c'était des fœtus à l'intérieur de la cage thoracique de leur mère. Donc tu vois quatre petits ichthyosaures qui font 40 cm de long sous les côtes de leur mère, qui est donc morte alors qu'elle était gestante. Et donc c'est un fossile super émouvant, tu vois, parce que tu peux imaginer plein d'histoires. Pourquoi est-ce que la mère est morte alors qu'elle avait ses petits à terme dans le ventre? Mm-hmm. Peut-être que l'accouchement s'est mal passé. Donc là, tu vois, on bascule entre le domaine scientifique et le domaine du rêve. On racontait des histoires individuelles d'animaux comment ils ont vécu, comment ils sont morts. Voilà.
Mais alors, est-ce que c'est une légende ou c'est une histoire? Ou alors, si, est-ce que c'est vrai que lorsque vous avez trouvé cette pierre-là, il y a d'autres explorateurs, on va dire, qui ont trouvé le reste?
Alors, il y a un autre. Alors, c'était sur une plage en Angleterre, en l'occurrence, qu'on a trouvé ce fossile.
C'est donc autorisé, c'est... cette...
Oui, parce qu'en Angleterre, t'as complètement le droit de ramasser des fossiles sur la côte. À chaque fois qu'il y a une tempête, ça érode les falaises côtières, il y a des blocs qui tombent, et puis très vite, les blocs sont détruits par l'agitation de la mer. Donc en Angleterre, c'est un des pays où la paléontologie est née, donc ça fait 200 ans que les gens ramassent des fossiles sur les plages. Tu vois, il y en a encore. Et dans notre petit milieu de spécialistes, on a fini par rencontrer un Anglais qui a trouvé une autre dalle qui correspond à la partie antérieure de ce squelette. Donc, c'est dit, mais c'est incroyable quand même que deux personnes. Lui, il l'a trouvé 2 ans avant nous, tu vois, cette partie-là. Ouais. Donc, il est probable que 2 ans après, il y a un autre bloc de la falaise qui se soit éboulé avec la suite du squelette qui est tombé. Donc, on s'est rencontrés, voilà, et on est en train de mouler chacune de nos parties respectives
pour
réunir le squelette complet.
Ça aussi, va être formidable. Collaborer on le verra à la prochaine expo, alors.
Bah écoute, j'espère. Hein.
Donc, c'est pas une légende.
Ouais.
C'est très bien. Maintenant, j'aimerais bien savoir comment on peut devenir spécialiste comme toi. Si c'est des études spéciales ou alors c'est,
c'est
autodidacte ou pas?
C'est les deux à la fois, si tu veux.
Raconte-nous, parce qu'il y en a peut-être qui seront
intéressés. Aimer les fossiles, aimer la géologie, avoir ce sens de l'observation, aimer comprendre comment se forment les choses, ça, je pense que c'est quelque chose d'inné ou que t'acquiers en allant à la pêche le week-end plutôt qu'en étant en salle de cours. Après, évidemment, moi, j'ai fait des études dans le domaine et ça aide quand même... comprendre ce qui se passe. Donc au début de ma carrière, tu vois, j'étais explorateur dans le monde de la géologie pétrolière, puisque savoir trouver des fossiles et comprendre pourquoi ils sont en endroit, ça peut aussi aider à comprendre pourquoi des gisements de pétrole sont un endroit plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est l'application pratique et industrielle la plus évidente. Et puis après, tu vois, qu'en fait, moi, comme ce qui m'intéressait, c'était plus de comprendre pourquoi les roches sont un endroit plutôt qu'un autre, plutôt que de trouver du pétrole sensu stricto, je suis retourné à l'université, où j'ai fait diverses études sur les fossiles, les processus sédimentaires à la surface de la Terre. Et puis j'ai fini maître de conférence à l'université de Bruxelles, où là, au lieu d'étudier les relations entre la vie à la surface et les fossiles sous la Terre, bah, j'ai fait l'inverse. J'ai étudié les relations entre la Terre et l'atmosphère, si tu veux. J'ai étudié comment est-ce que le méthane, qui est sous Terre, des fois dans des gisements pétroliers, peut s'échapper de sous la surface pour rentrer dans l'atmosphère et participer aux gaz à effet de serre qu'on a dans l'atmosphère, tu vois. Donc ça mène vraiment à tout, tu vois. Je suis parti d'études du sous-sol et à la fin, à Bruxelles, j'étudiais les sciences de l'atmosphère.
Et t'en es arrivé à chercher les...
Et alors pendant toutes ces années, tu vois, où j'étais salarié ou chercheur à l'université, bah, j'organisais par moi-même plein d'expéditions pour aller chercher des fossiles, donc tous les week-ends en Lorraine quasiment, et une ou deux fois par an au bout du monde, notamment dans l'Ouest américain
ou
raconte-nous
ton
dans l'Arctique.
Parce que tu vas dans le ranch des dinosaures.
L'aventure américaine, tu veux que je
parle. Ouais. Ah oui, ça serait intéressant, ça. Comme ça, on peut l'imaginer. On va voyager dans l'Ouest.
De cet été, c'est ça, ouais.
Comme tu veux, mais fais-nous rêver pour...
Tu
reviens avec un...
Je pense que l'aventure du Nevada, c'est ça que j'ai fait cet été. peut te faire rêver. Donc je collaborais avec des scientifiques de l'université de Beaune et du musée de Los Angeles. Et on a été fouiller des sédiments dans le désert du Nevada qui contiennent des squelettes d'ichthyosaures géants. Donc, hein, ces grands reptiles qui ressemblaient à des dauphins. Voilà, ils avaient plutôt la taille de baleine, tu vois. D'accord. Et pour quel intérêt scientifique d'aller chercher chez ces choses-là ? Bon, déjà, il y a un côté spectaculaire évident. Mais en plus, dans le désert du Nevada, on a été en chercher qui date du tout début de l'époque dinosaure, du tout début du Trias. Et à leur époque, ces animaux, c'était les plus grands animaux qui aient jamais vécu sur Terre. Tu vois, c'était vraiment énorme. Ça faisait entre 15 et 20 mètres de long. Seulement quelques millions d'années après le début de l'époque dinosaure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ère secondaire, l'époque dinosaure, elle est marquée par deux grandes extinctions. On sait tous que les dinosaures sont disparus dans une extinction massive. Mais l'ère des dinosaures est aussi inaugurée par une extinction massive qui a détruit les écosystèmes précédents et qui a permis à un nouveau monde de se mettre en place, l'écosystème des reptiles géants, quoi. Et quelques millions d'années seulement après cette extinction massive, eh ben, dans l'océan, on trouve des super prédateurs géants, ces énormes ichthyosaures. Donc la problématique scientifique, c'était de se dire, mais comment est-ce qu'après une énorme crise biologique, en quelques millions d'années seulement, la biodiversité peut se reconstituer jusqu'à permettre à des super prédateurs d'apparaître ? Puisque si tu as des super prédateurs qui vivent, hein, c'est bien que toute la chaîne alimentaire est reconstituée en dessous.
Tout à fait, oui.
Donc c'est ça qu'on allait étudier sur place. Et alors là, c'était dans le désert, à l'américaine, comme tu peux l'imaginer, tu vois. C'était vraiment un endroit paumé dans une vallée, donc on y allait en 4x4, on posait le camp sur place, avec les serpents sonnettes, les scorpions, enfin toute la faune du désert, les hurlements des coyotes la nuit, très authentique. Et puis on marchait dans une montagne où je faisais mon métier pour prospecter et voir ces fossiles. Donc là, comme le terrain était désertique, tu vois, ça aide beaucoup à les voir. Parce qu'ici, en Lorraine, comme tout est recouvert de végétation et d'herbe, je ne peux pas faire de miracle, je ne peux pas voir un fossile sous une couche d'herbe quand même. Il faut quand même qu'il y ait un talus, un champ labouré, un bord de rivière, il me faut une excavation. Là, dans un environnement désertique, je vois le sous-sol partout, donc c'est beaucoup plus pratique.
Oui, puisqu'ils remontent, donc ils reviennent.
Tu vois les cailloux par terre, quoi. Tu marches dessus, hein, littéralement. Et un autre endroit désertique avec un climat complètement différent où j'ai beaucoup fié, c'est le Spitzberg, justement.
Vas-y.
Donc là, rien à voir. Le Spitzberg, c'est une île au nord de la Norvège, donc à seulement 1000 km du pôle Nord, où le climat polaire fait qu'il n'y a aucun arbre qui pousse sur l'île. Hein, tu as juste des petites herbes qui font 5 cm de haut, et donc ça aide très bien à voir le sous-sol aussi. Donc,
ce n'est pas les mêmes prédateurs.
Les fossiles que je suis allé chercher à Spitzberg, si, sont aussi des ichthyosaures qui datent du tout début de l'ère des...
Je parlais des vivants.
Ah, les vivants, oui. Là, au Spitzberg, c'est pas les serpents sonnettes, c'est les ours blancs, là, la problématique. Donc, c'est effectivement... Moi, au début, tu vois, j'y allais surtout pour chercher des fossiles.
Il y a plus d'ours blancs que d'habitants.
Le Spitzberg, c'est incroyable parce que c'est un environnement polaire magnifique. Ça ressemble à des paysages du Seigneur des Anneaux, tu vois, ces immenses vallées glaciaires. Avec la faune, il y a beaucoup de rennes, des renards polaires et les ours. Bon, là, tu as fait le tour. Il n'y a que 3 mammifères qui vivent sur l'île.
Ils s'attissent.
Et dans cet environnement incroyable, voilà, j'ai fait beaucoup de randonnées, j'ai rencontré beaucoup de monde aussi, des gens qui vivent là-bas ou des gens qui organisent des expéditions sur place. Et puis, c'est aussi des aventures humaines parce que dans ce genre de paysage au Spitzberg, tu ne pars pas tout seul, tu pars en équipe. Donc moi je suis parti avec des gens qui sont plus spécialistes des oiseaux par exemple, qui m'apprennent des choses sur les colonies d'oiseaux qui migrent.
Oui, on en apprend tous les jours de toute façon dans cette expérience.
Voilà, donc effectivement je pense que pour trouver ce genre de fossiles, tu vois, il faut être curieux de tout. et de la nature actuelle aussi, bien sûr.
Oui, parce que là, tu trouves, il n'y a pas que les animaux, il y a aussi la flore que tu peux retrouver, comme les arbres fossilisés.
Oui, on mentionne plutôt les animaux fossiles, voilà. Mais les plantes, c'est quand même la base de la chaîne alimentaire, donc on peut aussi les trouver à l'état fossile. Et tu fais bien de le mentionner, puisqu'au Spitzberg, il y a la plus ancienne forêt pétrifiée du monde, connue, qui est là 380 millions d'années. Et tu vois des troncs qui font 10-15 cm de diamètre, qui sont comme des pilastres encaissés dans les berges au bord d'une rivière, et qui sont espacés à peine de 20 cm. Donc cette première forêt du monde, il faut s'imaginer qu'elle devait ressembler à une pelouse géante. Tu n'aurais pas pu te glisser entre les arbres. Donc c'est un monde assez fantastique, sans équivalent actuel.
Ouais, et retrouver ça...
Alors qu'est-ce que ça fait au Spitzberg, c'est ta question. C'est parce que cette forêt qui a presque 400 millions d'années, en 400 millions d'années, la tectonique des plaques a le temps de faire son œuvre, et il y a 400 millions d'années, cette île polaire se trouvait dans la région équatoriale, donc avec un climat favorable pour développer les premières forêts, tu vois. Et puis depuis, la tectonique des plaques a fait dériver le Spitzberg vers le nord, donc la tectonique des plaques, le taux moyen de déplacement des plaques, c'est à peu près 2 cm par an. Donc tu vois, c'est quand même pas complètement négligeable, c'est à peu près la vitesse à laquelle poussent tes ongles.
Et donc si vous avez les ongles bien grands, c'est
400 millions d'années et ça te permet de faire des kilomètres. Voilà.
C'est comme ça qu'on va calculer. Alors nos ongles grands, ça fait des millions d'années.
Ouais, c'est ça.
Ah bah oui, c'est une belle courbe d'échelle.
Et tu vois, d'ailleurs, le premier scientifique, Wegener, au début du 20e siècle, qui avait imaginé que la théorie de la tectonique des plaques, on le prenait pour un fou. Il disait, attends, tu dis que les continents bougent, mais prouve-le, quoi. Enfin, c'est du délire, ton truc. Il disait, peut-être même qu'un jour, on aura moyen de le mesurer. Mais aujourd'hui, avec les GPS, qui sont sensibles à un déplacement de quelques centimètres, on peut mesurer en temps réel la tectonique des plaques active. Peut-être que chaque année, le billet Paris-New York est plus cher parce qu'on s'éloigne un petit peu des États-Unis du fait.
Voilà, ça va être de la faute de la nature qu'on paye si cher les billets de.
Bon, c'est pas tous les jours qu'on va à New York quand même.
Et qu'est-ce qui fait que les dinosaures, que ce soit marins, etc. On en trouve plein en Lorraine. Alors tu m'as dit qu'il y avait.
Alors t'en trouves pas partout. C'est-à-dire qu'il a fallu avoir des conditions au fond de la mer qui permettent la préservation des squelettes. Par exemple, les récifs coralliens fossilisés que j'ai mentionnés là sur la forêt de haies. Imagine-toi un environnement de récifs coralliens actuel. Tu mets un poisson mort là-dedans. 2 heures après, il est mangé par les crabes, déchiqueté par les vagues. Donc t'as quasiment aucune chance de trouver un squelette dans cet environnement-là. Par contre, il y a aussi eu des moments où dans la région, il y avait une mer profonde avec un fond vaseux et mou. Et quand les squelettes tombaient là-dedans, tu vois, il n'y avait pas d'agitation des vagues. Donc, ils reposaient dans de la boue bien fine qui les a bien préservés. Donc, il y a certaines strates où c'est beaucoup plus probable de trouver des squelettes que d'autres. Donc, moi, tu vois, en tant que géologue, je sais que certaines strates sont a priori bien plus favorables pour préserver un squelette que d'autres.
Oui, c'est ce que je voulais savoir. On trouve ça où ? C'est bien dans des endroits bien quand même spécifiques. C'est pas bon, on va pas donner un coup de pied dans un caillou qui trouvait quelque chose.
Dans l'absolu, il y en a un peu partout. Tu vois, la ville de Nancy, par exemple, est construite sur une strate très riche en squelettes. Et la preuve, c'est qu'il y a une mâchoire d'ichthyosaure qui a été trouvée sur la place de la gare à Nancy dans les années 70. Donc tu vois, la fameuse tourtière, grand hôtel, sur la place de la gare à Nancy. Tu imagines qu'ils ont fait des fondations costauds pour l'ancrer, celle-ci. Et dans les années 70, il y a un amateur chercheur de fossiles qui a été prospecté dans le chantier. Et qui a trouvé une mâchoire avec des belles dents quand même, qui font quelques centimètres dans ce chantier. Donc c'était un peu une légende urbaine, tu vois, parmi les chercheurs de fossiles de Nancy. Oh, il y avait un squelette, une mâchoire qui a été trouvée sur la place de la gare. Et puis, via les contacts, on a fini par tomber sur quelqu'un qui avait dans sa collection cette mâchoire trouvée à Nancy. Donc on lui a racheté, et en tant qu'habitant de Nancy, tu vois, c'est génial. Parce qu'on a chez nous une mâchoire d'ichthyosaure littéralement trouvée en plein centre-ville. Quoi. Donc tu peux en trouver partout dans l'absolu, tu vois.
D'accord.
Et pour parler plus de Metz...
Oui.
Récemment, il y a une magnifique publication qui est sortie, une étude du musée d'histoire naturelle du Luxembourg, qui a décrit un nouveau reptile marin géant qui a été trouvé dans les environs de Gravelotte, tu vois, dans la grande périphérie à l'ouest de Metz.
Toujours la légende du Graouli.
Peut-être la légende du Graouli, en tout cas celui-ci, donc c'est une nouvelle espèce qu'ils ont décidé d'appeler le Lorenosaurus. Magnifique nom, je trouve,
c'est bien.
Et là, ce qui a été découvert, c'est une mâchoire qui fait 1,50 m de long, Donc là, on est vraiment dans du costaud. Hein. C'est des monstres marins, le tyrannosaure des mers, avec des dents de 10 cm. C'est vraiment une tronçonneuse vivante, l'animal. Hein, pour ceux qui connaissent, ça fait partie du groupe des pliosaures. Donc c'est un plésiosaure. Le plésiosaure, c'est le monstre du Loch Ness avec un long cou et quatre nageoires, un peu un corps qui ressemble à une tortue. Bah, le pliosaure, c'est aussi ce corps de tortue, mais au lieu d'avoir un long cou et une petite tête, il a une énorme tête au bout.
D'accord. Mais on en reparlera après. J'ai encore quelques petites questions.
Le rhinosaurus.
Oui. Mais non. Là, on en parle tout de suite. Mais on l'a trouvé quand ? C'est nouveau, non ? Puisque.
Alors, il a été trouvé il y a une quarantaine d'années déjà.
Ah, d'accord.
Par des chercheurs de fossiles amateurs sur un chantier au bord d'une route. Et comme ils ont compris que c'est une découverte exceptionnelle, tu vois, ils sont rentrés en contact avec des scientifiques et il a été stocké au musée du Luxembourg où à l'époque il a fait l'objet d'une petite description scientifique pas très précise, tu vois, et il est resté stocké comme ça pendant longtemps. Et là récemment il a été à nouveau étudié et réinterprété comme une espèce vraiment à part. En fait c'est le plus ancien des pliosaures connus, quoi, donc le plus ancien de ces reptiles marins géants connus. Il date du milieu du Jurassique. Et à l'occasion de cette nouvelle description, donc il a été publié dans un journal scientifique international et un nouveau nom lui a été attribué. Donc maintenant, le Lorenosaurus existe et est connu de tous. Et je trouve ça assez génial comme nom.
Ouais. Il est spécial puisqu'il y a encore de la peau dessus, non ?
Alors, sur le squelette du Lorenosaurus, non. Hein, il y a quelques éléments de squelette qui ont été trouvés, notamment la mâchoire et des dents. Mais c'est pas du tout un squelette complet. Enfin, c'est quand même déjà des éléments suffisamment spectaculaires quand tu as une mâchoire d'1m50. Mais celui-ci, non, il n'y a pas de trace de peau préservée dessus. Par contre, tu fais peut-être référence à un petit squelette d'ichthyosaure que moi et mon frère avons trouvé il y a de nombreuses années au Luxembourg, justement, dans une zone industrielle où il y avait un chantier pour construire un hangar. Et là, on a fini par repérer des os d'ichthyosaure. Donc, on a pris les blocs. Encore une fois, on ne savait pas trop ce qu'on prenait parce que ça ne ressemble pas à grand-chose sur le terrain. Et à l'atelier, en préparant le fossile, on s'est rendu compte qu'il y avait les contours de la peau autour du squelette.
Ah, d'accord.
Donc ça, c'est assez incroyable, ça n'arrive pas tous les jours. Donc là, en l'occurrence, c'était un bébé ichthyosaure, donc imagine-toi un bébé dauphin. Bah, tu vois un contour noirâtre qui dessine le contour des nageoires autour du squelette. Donc ça, c'est une superbe pièce. Bon, encore une fois, je suis rentré en contact avec le musée du Luxembourg pour leur dire « je crois que j'ai un fossile quand même qui vaut le coup ». Tu vois, on interagit avec eux pour étudier ce genre de spécimen. Donc c'est aussi intéressant quand tu trouves des spécimens comme ça, bah, de partager ça avec d'autres scientifiques parce qu'on s'apprend des choses mutuellement. Tu vois.
Et lorsque vous trouvez des squelettes de dinosaures pour exposer, parce que c'est le but du jeu aussi, hein, c'est que vous trouvez vous
avez des... Ah bah oui, c'est de partager. Si tu le gardes pour toi tout seul, surtout après avoir passé, admettons, 6 mois à le préparer dans ta cave, tu as envie de le montrer et d'en parler aux gens. Quoi.
Voilà, tout à fait. Mais lorsque tu exposes, que ce soit avec nous ou autre part, normalement, si c'est le vrai, ça coûte très cher. Hein, puisque, donc, vous faites... tu sais bien que je n'aime pas ce mot, le moulage, parce que bon, mais c'est le principe. Et vous reproduisez quand même...
Bah, c'est-à-dire que, oui, si tu veux présenter un fossile, tu peux présenter l'original, qui a beaucoup de charme, dans lequel il y a plein de détails, nous, on va pouvoir expliquer plein de choses. Tu vois, peut-être, par exemple, voir des cicatrices sur les os... pouvoir du coup expliquer la vie de l'animal, tu as mentionné cet ichthyosaure avec des embryons dans le ventre, plein de choses comme ça. Et généralement aussi, on reconstitue des moulages en plastique que là, tu peux mettre à l'extérieur et qui permettent aux gens de visualiser plus facilement la bête.
D'accord, donc quelle que soit la taille, c'est possible.
Ouais, faire des moulages, c'est aussi tout un art, mais on fait ça aussi. Quoi.
Mais c'est pas toi qui le fais. C'est ton frère.
Mon frère aussi, puis je collabore avec des gens, bon, c'est le métier de faire ça.
Ouais, bah justement, parle-nous de... Parce que vous avez un musée quand même, il faut quand même en parler.
Un musée
Sisteron, non ?
Ouais, dans le sud de la France. Ouais. Bah, j'avais des amis qui travaillent dans le sud de la France et mon frère collabore beaucoup avec eux. Donc, ça s'appelle la Paléogalerie, le musée que tu mentionnes. Non c'est un passionné de fossiles qui a cherché plein de fossiles en Provence et qui a fini par trouver des spécimens complètement extraordinaires. Donc lui, il a trouvé des ichthyosaures géants. Il a trouvé, lui, des dinosaures, sensus stricto, hein, des vrais dinosaures qui sont tombés dans la mer qu'il y avait anciennement en Provence, et dont il a trouvé les squelettes. Et il expose tout ça dans la Paléogalerie, dans le sud de la France. Donc c'est un petit musée complètement extraordinaire, avec des squelettes uniques au monde, vraiment de classe mondiale. Et forcément, tu es entre passionnés de fossiles, on communique. Donc...
D'accord. De toute façon, on aura le temps d'en reparler de tout ça, parce que... On a de beaux projets avec ça.
Ah bon ?
Oui, mais tu le sais. Toi, on avance. Et, mais tu ne nous as toujours pas parlé. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de petites aventures sur la Lorraine par rapport à ces animaux qu'on pouvait trouver en Lorraine.
Tu veux dire
les
petits
animaux,
fossiles? Bah, c'est vrai que les gens me disent bah, hey, mais c'est incroyable ce que vous trouvez, j'hallucine, est-ce qu'on pourrait pas vous accompagner pour trouver ça?
Voilà.
Alors je dis,
est-ce qu'on peut venir
m'accompagner pour trouver des squelettes d'ichthyosaures? Bon, vous risquez d'être déçus parce que j'en trouve quand même pas tous les jours. Par contre, je permets assez régulièrement à des gens de m'accompagner sur le terrain chercher des fossiles. Donc là, tu vois, on va chercher des ancrines, des ammonites, divers coquillages fossiles. Au-delà de la collecte de fossiles pure et dure, moi, tu vois, en tant que scientifique, je vais plus loin. Je dis, regardez, là, vous voyez la forme du récif. Ce récif, vous voyez, à ce moment-là, il est mort. Pourquoi est-ce que le récif est mort? Ça peut faire écho à des problématiques sur le réchauffement climatique actuel, tu vois. Mm-hmm. Donc on peut vraiment disserter et faire des liens entre le passé et le présent. Donc ça, c'est une chose. Et puis, je permets aussi à des gens de préparer des fossiles. Ça fait rêver les gens, quoi. Franchement, tu arrives avec un fossile brut. Tu leur dis, voilà, avec ce percuteur, je vais le sortir de la pierre devant vous. Vous allez voir qu'à la fin, il va être superbe. Tu vois, les gens, ça leur fait vraiment penser à Jurassic Park, quoi. Ça les fait rêver. Et je donne aussi aux gens l'opportunité de pratiquer ça. Donc, je leur donne mes outils professionnels. Hein, soit je me déplace... dans des centres culturels ou dans des écoles avec
après.
Tout le matériel.
C'est pas ça que je te demande. Moi, je te demande parce
qu'est-ce que tu...
ça, on
Jean-Louis est un journaliste incisif.
Voilà, tu avances un peu trop vite. Mm. Moi, j'aimerais bien que tu nous, quelque part, te nous fasses voyager avec toi. C'est-à-dire, voilà, moi, je te dis, voilà, Monsieur Blouet, j'ai une école ou alors j'ai un petit groupe. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer et puis je veux que ça soit en Lorraine.
Alors, par exemple, près de Saint-Nicolas-de-Port, au sud de Nancy. Tu trouves des sédiments sableux qui datent de la fin du Trias, dans lequel tu trouves de nombreuses petites dents de requin. Donc, dans ces sables, si tu t'analyses la disposition des grains de sable, tu peux voir la trace des courants de marée dans la forme des rides de sable. Donc, tu peux imaginer que tu étais sur une plage peu profonde, hein, et puis tu vois littéralement le rythme des marées. Tu trouves les petites dents de requin, donc tu peux un peu t'imaginer la faune qu'il y avait là-dedans. Et on trouve même des dents de dinosaures dans ce sable. Hein, puisqu'on était dans une zone côtière, donc le fleuve a qui amenait le sable amenait aussi les cadavres des animaux sur la terre ferme. Donc ça, c'est un endroit assez extraordinaire où tu as quand même une biodiversité fossile assez incroyable. Trouver une petite dent de requin fossile de Lorraine.
Je viens avec quoi? Je viens avec une pioche, un truc? Comment je fais, moi?
L'endroit que je mentionne, effectivement, donc c'est au bord d'une rivière. Il y a un escarpement sableux, là. Et tu ramasses ce sable. Alors, les dents de dinosaures, tu vas les voir assez vite, mais les dents de requin sont assez petites. Donc, tu prends un seau de sable et tu le tamises chez toi avec une passoire et tu vas trouver les dents de requin au fond, quoi. Donc, ça, voilà, c'est un gisement assez extraordinaire de Lorraine.
Et tu organises des petites sorties comme ça ou pas?
Alors, les gens me demandent beaucoup d'organiser ça, mais j'attends d'avoir des groupes. Tu vois, je fais des sorties de groupe.
Oui, justement. Ouais.
Les gens me contactent. Donc, j'ai un site internet qui s'appelle club-dino.fr.
Voilà, on en parlera après.
Où j'invite les gens à me contacter, que ce soit des groupes, des centres aérés ou des particuliers, pour faire ce genre de sorties sur le terrain. Mmh. Tu vois, il y a un certain temps, il y a une famille passionnée de fossiles. Le jeune, il avait 13 ans. Tu vois, ça le faisait rêver. Il me dit, est-ce que vous pouvez faire une journée extraordinaire pour notre jeune? Il adore les dinosaures. Il a vu votre dernière expo, il a vraiment envie de venir avec vous. Je fais pas de problème, je vous propose le matin, on va sur le terrain, on cherche des fossiles. Et l'après-midi, vous venez à l'atelier et je vous les prépare et vous repartez avec un super fossile préparé, prêt à mettre dans la vitrine.
Ça,
que vous
peux
avez
pas
trouvé
faire
le
avec
matin.
Un groupe.
Si, je peux faire avec un certain nombre de personnes, jusqu'à quelques dizaines de personnes. Après, je m'adapte aux demandes particulières. Souvent, c'est du cas par cas, tu vois. Ouais. Par exemple, si je vais chercher des fossiles dans un champ avec un groupe, bon, si t'es un groupe de 15 personnes, tu vois, je demande quand même à l'agriculteur, bon, on sera respectueux de votre champ, on va juste dans le talus, mais juste soyez pas surpris de voir 15 personnes débarquer.
Oui, bien sûr, c'est encadré.
Voilà, faut prendre ce genre de précautions.
Donc, je reviens à notre animation que l'on va faire le 14 avril, dans le grand événement à Marly, au NEC,
que tu organises.
Dans le cadre de la bourse aux poissons organisée par le Club Oléron, dont j'en suis le président. Donc, moi, j'ai amené ce nom, je l'ai animé dans l'animation dinosauresque, parce que à la bourse aux poissons, il faut vite réserver cet espace, parce qu'il faut réserver. Et ça va être une opportunité exceptionnelle de travailler comme un vrai paléontologue.
Ouais, alors déjà, pourquoi est-ce que tu m'invitais à la bourse aux poissons? Oui, parce que tu m'as dit, mais t'as des poissons fossiles de Lorraine, vas-y, c'est marrant, viens montrer ça à la bourse aux poissons. Je fais, ouais, et c'est une bonne idée, tu vois, c'est encore un exemple de décalage où t'amènes des fossiles dans un environnement où c'est pas a priori là où tu les espères, mais où je pense que l'effet va être assez sympa.
S'il est dans l'eau, c'est, on va dire, entre guillemets, c'est un gros poisson.
C'est l'aquarium lorrain, tu vois, mais je te ramène l'aquarium lorrain préhistorique.
Voilà, alors ce Dino Club. Ce club Dino, comme tu le dis, qui est fort intéressant, il va s'agrémenter comment?
Alors, ce que tu vas organiser pour ta bourse aux poissons à Marly.
Surtout aux gens qui vont venir, il faut les intéresser à venir.
Donc, je t'amènerai plein de vrais spécimens, y compris un fémur de Diplodocus énorme, hein, donc d'1m20, que j'ai trouvé lors d'une expédition aux États-Unis. Donc ça, les gens pourront le toucher, j'expliquerai comment je l'ai trouvé, je montrerai des photos, des aventures, comment ça se trouve. Je ramènerai des odictyosaures que j'ai trouvés en Lorraine. Donc je vous leur montrerai comment ça se trouve à l'état brut. Et puis j'amènerai des beaux fossiles assez représentatifs de ce qu'on trouve en Lorraine, des coraux fossiles, des poissons fossiles. Et puis surtout, je permettrai aux gens de pratiquer par eux-mêmes. Donc j'amènerai une grande quantité de fossiles bruts que j'ai trouvés en Lorraine.
Donc tu vas préparer un atelier, l'atelier.
Moi qui vais préparer, c'est vraiment les gens. Je vais leur dire je vous donne mes outils. Vous pouvez bosser.
Il faut qu'ils soient préparés.
Oui, donc je mets en place l'atelier, je ramène tout le matériel. Donc c'est
dans un vrai atelier de.
Ouais, le vrai atelier de paléontologue, c'est celui que moi et mon frère utilisons. Donc, c'est les vrais outils. C'est des outils très spécialisés. Hein. C'est des outils qui sont fabriqués par une petite boîte en Allemagne spécifiquement pour la préparation de fossiles. Donc, en premier lieu, c'est le micro-percuteur. Ça va te permettre de retirer la masse de la gangue de roches autour du fossile. Ça, souvent, les jeunes adorent. Tu vois. Je pense qu'ils pourraient rester toute la journée à picoter leurs fossiles. Et la phase de finition, une fois que le fossile a été percuté, il y a souvent un grain de roche qui reste accroché dessus, tu vois. Donc, il y a un aspect encore rugueux, pas vraiment fini. Donc, pour donner une belle surface, on passe dans une micro-sableuse. C'est comme un pupitre fermé par une vitre, à l'intérieur duquel, avec un pistolet, on va projeter une poudre qui va lisser la surface du fossile. Mmh. Et donc, à la fin de l'après-midi, tu repars avec ton fossile nickel, comme si tu l'avais acheté dans un magasin. Mais c'est toi qui l'as fait.
Ça va être extraordinaire, ça. Et donc, c'est pour petits et grands?
Ah oui, mais moi, j'organise cette activité. On est deux en général. Hein. J'ai un étudiant en géologie qui m'assiste pour toute la partie technique.
Je pense que ton frère sera là aussi.
J'espère qu'il aura le temps.
Oui, mais on lui trouvera.
Et puis, ça s'adresse vraiment à tout public. Hein. Souvent, les gens, c'est un public familial qui vient me voir. Donc, tu vois, c'est le jeune qui est passionné de fossiles qui veut essayer. Et très vite, les adultes sont là. Ils disent, mais c'est incroyable, je ne savais pas qu'on pouvait trouver ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, donc, on part dans des discussions qui peuvent nous amener jusqu'à l'origine de la vie sur Terre. Tu vois.
Donc, les enfants, si vous avez dans votre jardin des cailloux, vous pensez qu'il y a un dinosaure dedans, vous le ramenez à la bourse aux poissons et
vous pouvez le ramener. Jean-Philippe, j'adore quand les gens me ramènent des spécimens, que je les expertise.
Donc Jean-Philippe dira il y a quelque chose et s'il y a vraiment quelque chose, on va l'extraire et puis vous saurez ce qu'il y a.
Ça m'est arrivé une fois pour l'instant d'avoir un jeune qui m'a ramené un os fossile, tu vois. Souvent, les gens ramènent des cailloux qui ont des formes un peu bizarres. Je leur dis, ça, c'est un caillou avec une forme. Il ne faut pas se baser sur la forme, il faut se baser sur la micro-texture poreuse de l'os pour l'identifier. Et une fois, j'ai un jeune d'à peine 10 ans qui avait trouvé un os de notosaure, en l'occurrence. Donc, je l'ai félicité et tu vois, j'ai pris le temps de bien lui préparer, de lui sortir de la pierre. Donc, il est reparti avec tout ça. Je peux te dire que les parents en ont entendu parler pendant un moment. Quoi.
Oui, c'est vraiment l'aventure. Et on revient dans le Jurassic Park, etc. C'est ce qui a fait du bien.
Mais pendant ton exposition à la Bourse aux Poissons à Marly, tu vois, je donnerai probablement une sorte de conférence pour raconter mes expéditions, l'histoire géologique de la Lorraine d'une part, et montrer que moi, les week-ends en Lorraine, je peux trouver des super fossiles. Donc il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde. Et puis je raconterai aussi des expéditions un peu plus originales, tu vois, que ce soit dans l'Ouest américain ou ailleurs.
Oui, mais vas-y, raconte, on a encore le temps. Hein.
Mais je raconterai ça, je te mettrai ça en forme de toute façon, une conférence à Marly.
De toute façon, à Marly...
Rappelle-moi les dates, même pour moi, de Marly.
C'est le 14 avril.
14 avril. Hein.
Okay. Il faut pas oublier, ne sois pas en retard.
Moi, ça me demande pas mal de préparation, d'amener tout l'atelier, je viens avec une camionnette.
Non, mais nous aussi, parce que tu sais très bien qu'on met toujours les petits plats dans les grands. Hein. Mm. Et plus les petits plats sont grands, et plus les autres sont plus grands. Donc là, ça va être, on va te faire ton vrai atelier. On va mettre des grands écrans, des écrans de grande télévision, et puis puisqu'on a les films.
Ah oui, c'est vrai, oui. Avec
on a les films, donc on vous verra travailler dessus.
C'est vrai que toi et Alain Lien, vous m'avez accompagné sur le terrain, voilà, et vous avez réalisé des films qui expliquent comment j'ai trouvé des fossiles.
Donc c'est ça qui a... on va recréer ce climat à la découverte d'un petit caillou et repartir avec un fossile, ça va être... Pour les enfants, même pour les adultes,
ça, non, mais ça marche, extraordinaire. Ça marche à fond. En fait, à chaque fois que j'ai l'opportunité de mettre ça...
Ça va marcher, c'est que c'est extraordinaire, quoi.
Oui, c'est réellement extraordinaire. À ma connaissance, je ne dis pas que je connais tout, mais à ma connaissance, c'est une opportunité vraiment unique en France de pouvoir préparer des fossiles avec des outils professionnels. Pourquoi est-ce que la plupart des musées ne mettent pas ça en place? Déjà parce que les outils, ça coûte très cher. C'est assez résistant, mais quand un enfant le fait tomber par terre et que ça casse la pointe en carbure à 70 euros, bon, quand on est à la troisième de la journée, tu vois. Bon. Et après, ça demande quand même pas mal d'encadrement. Parce que si tu mets les gens devant un caillou avec le percuteur, bah, forcément, ils n'ont jamais fait de leur vie, ils ne vont pas savoir par où attaquer. Donc il faut vraiment expliquer aux gens comment faire ça. Donc ça demande quand même un certain encadrement professionnel. Et puis aussi, si tu veux, à force d'expérience, j'ai fini par trouver les fossiles parfaits qui sont pas trop durs à préparer et voilà, qui sont accessibles à des gens sans expérience, tu vois, et qui sont quand même très jolis. À la fin de la journée, tu repars avec quelque chose que tu auras acheté 30 euros sur internet, quoi, mais c'est toi qui l'as fait toi-même, ça vient de Lorraine, oui, et t'as appris pourquoi il est là, comment ça se forme.
Donc quand un enfant ou un adulte, hein, de toute façon c'est de 7 à 77 ans, même au-delà, hein, c'est pas Tintin.
Si tu veux, moi, voilà. Ce qui m'intéresse dans le public adulte, c'est de délirer sur des considérations scientifiques qui me font moi-même plaisir, tu vois.
Oh, mais tu sais, les enfants, tu pourras leur raconter les histoires, hein, ils adorent ça. Hein.
Donc, par exemple, comme j'étais ancien ingénieur pétrolier, tu vois, je dis aux gens, mais est-ce que vous saviez qu'on a trouvé du pétrole à Sion, par exemple, au pied de la colline de Sion, tu vois. Puis après, je leur dis, mais est-ce que vous savez comment il s'est formé? Parce que le pétrole, bah, ça reste une substance naturelle, issue de l'altération par la chaleur en profondeur de restes organiques. Donc ça aussi, c'est du fossile. Donc ça nous raconte pas mal de choses sur l'histoire de la vie sur Terre. Donc tu vois, je casse les codes comme ça. Est-ce que vous savez qu'on a trouvé récemment des gisements d'hydrogène dans le nord du département, sous terre? Donc, comment ça s'est formé? On peut, comme je te disais, aller sur des problématiques environnementales. Mais les récifs de coraux qu'on trouve dans la forêt de haies, par exemple, bah, vous voyez, une forme de bosse. Il s'est passé quelque chose qui les a tués à un moment donné dans le passé. Pourquoi?
Si on réfléchit comme ça sur Harry, la carrière d'Harry, c'était là aussi, on trouve plein de fossiles.
C'est quelle carrière ça, c'est
Harry? Tu ne connais pas?
Dis-moi, c'est où?
C'est ici, en Lorraine. Harry, c'est les hauteurs. De Metz, un peu plus haut là-bas.
C'est une carrière, une ancienne carrière?
Ah oui. C'est une carrière de... Qu'est-ce qui sortait là? Je ne sais plus. C'est une carrière de... Ah, de...
Si c'est sur les hauteurs...
De la craie avec, donc c'est du...
Si c'est sur les hauteurs, c'est probablement du calcaire jaunâtre.
Oui, voilà. Non, il est blanc. Okay. Et puis, il y a plein de fossiles dedans. Il faudra que je l'emmène, tiens.
Mais partout, en fait, c'est en Lorraine, partout où tu trouves des cailloux, en fait, tu trouves des fossiles. Et c'est ça qui est assez incroyable. Finalement, c'est que dès que tu te mets à regarder par terre, quelque part en Lorraine, comme c'est partout des anciens sédiments marins, tu vas trouver des coquillages fossiles partout. Donc, ça peut être des petites choses ou des grosses ammonites, mais il y en a vraiment partout, quoi.
Donc, en résumé, en petit résumé, parce que j'ai encore plein de questions, mais on n'aura peut-être pas trop le temps. Le 14 avril, atelier Dino Club, petit et grand.
Donc, à Marly.
À Marly, au NEC, hein, le 14 avril. De toute façon, vous retrouvez tout ça
sur... Je serai présent.
Heureusement, parce que c'est pas moi qui vais le faire.
Donc merci Jean-Louis d'inviter.
Vous retrouvez tout ça sur la page de RPL, sur les pages Facebook et puis sur nos médias. Il y aura encore plein d'autres choses. Donc moi, je vous donne rendez-vous surtout le 14 avril au Dino Club, au Club Dino de Philippe, Jean-Philippe Blouet et son frère. Vous avez tous les coordonnées, tu peux me rappeler ton... Blouet Expédition aussi.
Ouais, alors j'ai deux sites, club-dino.fr, tu vois, ça s'adresse à un public familial, je présente mes activités autour de la Lorraine. Et puis les voyages que j'organise, que ce soit dans l'Ouest américain ou au Spitzberg, là, tu vois, c'est un autre niveau, c'est un autre niveau d'engagement. Et j'ai un autre site qui s'appelle blouetexploration.com, donc Blouet, c'est mon nom de famille, B-L-O-U-E-T, tout attaché, blouetexploration.com, où là, je présente les contours d'un voyage au Spitzberg que je vais organiser cet été, notamment avec Patrice Costa, que tu as invité, grand reporter, spécialiste des oiseaux, où là, on va organiser un voyage naturaliste assez incroyable au Spitzberg, où on va s'immerger dans l'ambiance du pôle, tout en restant confortable. Hein. C'est pas une expédition en tente, on ira à l'hôtel, voilà.
ceux qui préfèrent l'hôtel.
Voilà, donc ça sera une expédition à la fois. Éblouis. L'expédition au Spitzberg que j'organise cet été sera à la fois confortable et on ira voir le Spitzberg insolite, quoi. Donc, on ira voir des glaciers, on ira voir des colonies d'oiseaux, tu vois. On se posera des questions sur la place de l'homme dans tout cet environnement. Évidemment, moi, je vous emmènerai voir des fossiles. Donc, on verra un site unique au monde. On verra un cimetière de squelettes d'ichthyosaures. Donc là, j'engage ma responsabilité de géologue en qualifiant ce site d'unique au monde. Tu marches vraiment sur un terrain où tu visualises les squelettes à droite, à gauche.
C'est une sorte de petite monticule.
Voilà, tu as des petits monticules à l'emplacement de chaque squelette, donc c'est complètement incroyable. Imagine-toi voir ça en plus dans l'environnement du pôle avec des rennes autour de toi, donc c'est complètement incroyable.
De toute façon, tu feras ta petite conférence là-dessus sur le Spielberg.
Ouais, je te présenterai
à la bourse aux poissons, donc ils verront ce voyage-là et puis ils verront justement le cimetière entre guillemets des éléphants.
Et puis au Spitzberg, quand je te dis que c'est dans des conditions confortables, on logera tous les soirs dans l'hôtel le plus au nord du monde. Rien que le nom, tu vois, c'est impressionnant, l'hôtel le plus au nord du monde. Et en plus de ça, il se situe dans une ancienne cité soviétique. Alors là, tu vois, il y a plein de choses à expliquer. Hein. Pourquoi une cité soviétique au Spitzberg, qui est une île norvégienne? Parce que c'est un territoire avec un statut légal très particulier. Il y a bien une souveraineté norvégienne, mais tous les citoyens du monde ont le droit d'y s'y rendre sans visa et sans permis de travail. Et tous les États du monde ont le droit d'y établir des activités commerciales au même titre que la Norvège. Donc, tu vois, c'est vraiment particulier. Et tu imagines bien que l'Union soviétique n'avait pas manqué cette opportunité d'installer une petite présence en territoire norvégien. Donc ils avaient mis une petite colonie, on peut dire, sur cette île. Et à la chute de l'Union soviétique, elle a été abandonnée. Et donc tout est préservé dans cet environnement polaire. Tu as encore le buste de Lénine. Quand tu ouvres les bâtiments, tu as encore les carnets de notes écrits en russe. Donc ça donne vraiment cette impression de voyager dans le temps. C'est un musée à ciel ouvert, tu vois.
C'est une page d'histoire.
Donc c'est incroyable parce que t'as à la fois, tu voyages dans l'histoire, tu sors de là, tu es face à la toundra, donc face à une nature incroyable. Donc vraiment, tu es transporté dans un autre monde, tu vois. Et tout ça à une température entre 5 et 10 degrés. Donc c'est un environnement polaire, certes, mais comme cette île est au milieu de l'océan Atlantique, en été, ça maintient quand même un climat assez doux pour la latitude, tu vois, la chaleur amenée par l'océan Atlantique.
On pose la question aussi, cet écotourisme, est-ce que ça ne va pas désagréger la même nature?
C'est sûr qu'à partir du moment, à partir du moment où tu vas quelque part, t'es
on parle de nature, on parle de l'environnement.
Sur place, la plupart des gens qui font ces expéditions là-bas, tu vois, ça va être les croisières Ponant, des croisières assez luxueuses avec quand même pas mal de passagers sur le bateau. Moi, ce dont je te parle, ce sera un groupe de 10 personnes. Donc super encadré par moi, Patrice Costa et un photographe aussi qui sera sur place pour documenter le voyage. Donc c'est vraiment un groupe à petite échelle. Super qualitatif, tu vois, on va promouvoir la discussion entre les participants et puis justement réfléchir à cette place de l'homme dans la nature.
Faut-il un entraînement spécial, spécifique
pour ce voyage? Pas du tout, parce que je l'ai conçu justement pour qu'il soit accessible à tous.
Donc on peut venir en basket et en t-shirt.
En t-shirt, il fait pas si froid que ça. Franchement, tu mets un manteau, il fait moins froid qu'un hiver brumeux en Lorraine, tu vois. Tu mets un bon manteau, c'est ok. Et le maximum de marche qu'on va faire pendant ce séjour, ça sera 8 km. Donc c'est vraiment des petits circuits que j'ai prévus et c'est basé sur toute mon expérience. Moi, j'ai randonné des centaines de kilomètres sur Spitzberg.
Oui, c'est pas comme la dernière fois où 80 kilos de cailloux.
Voilà, donc là, si tu veux, donc ce voyage, c'est le best of the best de tout ce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter là-bas. Et donc, je vous fournis le meilleur à portée de main. Au lieu de faire les 200 kilomètres de marche que moi, j'ai fait pour tomber sur une colonie d'oiseaux, je vous y emmène direct.
Il faut quand même un budget, c'est pas...
Oui, il faut quand même un certain budget, forcément. Ça, c'est la vie, quoi. Tu vois, ça coûte dans les environ de 5000 euros ce voyage.
Et donc, par personne?
Ouais.
Ah ouais, quand même.
Si tu veux, c'est la Norvège, hein, c'est pas donné. Et puis voilà, c'est un voyage assez exclusif. On est trois encadrants. Ça reste moins cher que les croisières Ponant, mais c'est un autre style, tu vois. Si tu veux du super luxe, si tu veux pouvoir profiter de ton café sur demande, sur le pont du bateau avec vue sur les ours polaires, là, tu vas chez Croisières Ponant. Si tu veux être un peu plus dans l'authenticité tout en restant dans le confort, tu viens avec moi. Mais avec Croisière Ponant, tu n'iras pas voir un cimetière d'ichthyosaures géants, ni la plus ancienne forêt fossilisée du monde. Et puis là, tu vois, dans cette ancienne cité soviétique, on prendra vraiment le temps de s'imprégner de l'ambiance incroyable du lieu. On visitera l'ancien bureau du KGB. Ça, c'est hallucinant, parce que comme c'était quand même une cité...
Il faut espérer que ça ne soit pas le nouveau aussi.
Non, voilà, là, c'est... D'ailleurs, quand on rentre, on met une cale devant la porte, tu vois, pour être sûr qu'elle reste bien ouverte, Et comme c'était une cité soviétique sur un territoire de l'Ouest, tu vois, ils avaient quand même un petit bureau pour surveiller que les citoyens se comportaient comme il faut. Et moi, quand je suis rentré là-dedans la première fois, je me disais, ouais, c'est un bureau, tu vois, un bureau administratif, rien de spécial. En fait, derrière la porte en bois, tu as deux portes en acier de 15 cm.
D'accord.
Tu arrives là-dedans, tu as deux petits bureaux avec des coffres-forts et sur le côté, tu as un four pour brûler les documents secrets, tu vois.
Ah.
Et donc là, si tu aimes la science-fiction, tu vois, tu es carrément dans un James Bond en vrai, quoi. C'est hallucinant. Hyper authentique, tu vois.
Ça fait rêver quand même, hein, mais je préfère les dinosaures, moi, je préfère aller voir.
Au Spitzberg, t'as les deux, tu vois, c'est ça qui est incroyable, tu combines cet attrait culturel, la beauté de la nature, et puis la confrontation au squelette d'ichthyosaure, qui est encore quelque chose de complètement original. Mm-hmm. Donc,
Et vous avez déjà des participants d'inscrits ou...
J'ai déjà 5 personnes qui sont intéressées, et puis là, je collabore avec un tour opérateur à Bruxelles, avec lequel j'ai encore rendez-vous la semaine prochaine, justement. Eux, ils organisent des voyages uniques en leur genre, tu vois. Par exemple, ils travaillent, ils collaborent avec un archéologue pour organiser des voyages en Égypte. Donc, tu vois, ils sont spécialisés dans le voyage différent, quoi, avec un apport culturel vraiment avec un spécialiste.
Ouais, tout en restant dans la protection quand même de l'environnement.
Ah, à chaque fois, c'est des petits groupes. Hein. Là, le
c'est ce qui est important.
Tour opérateur qui fait
des... Il vaut mieux rester à la maison.
Je fais des voyages en Égypte dont je te parle. Le mec, il est égyptologue, tu vois. Il est avec un petit groupe de 10 et justement, il te vend un voyage où tu vas voir l'Égypte comme tu l'as jamais vu, quoi. Mm-hmm. Là, je leur ai dit, écoutez, moi, j'organise un voyage où on va voir le Spitzberg comme on l'a jamais vu. Il faut qu'on fasse des trucs ensemble.
Voilà, le soleil et puis la lumière.
Le soleil au Spitzberg, ça dépend. Tu
peux... Non, mais en Égypte, il y a quand même le soleil en Égypte.
En Égypte, oui, bien sûr. Oui.
Donc, je vous invite quand même à venir déjà. Si c'est moins cher, hein. Venez le 14 avril, puisque l'entrée est libre. Pour les réservations, vous allez sur clubdino.fr pour le 14 avril, hein, parce que autant que. Qu'il y ait une petite réservation ou pas.
Pour le 14 avril, les gens peuvent se montrer intéressés à l'avance, mais comme je pense qu'il y a beaucoup de visiteurs à tes manifestations, je vais aussi me débrouiller pour accueillir les gens sur l'atelier de préparation de fossiles en flux tendu, tu vois. Donc au fur et à mesure que les gens se présenteront, ils pourront s'installer et préparer les fossiles.
Si, admettons, il y a des flyers qu'on pourra déposer aux
J'ai des flyers.
Enfants,
par contre, s'il y a des groupes vraiment intéressés, typiquement des groupes scolaires ou des centres aérés, là, il faut me contacter à l'avance. Parce que si tu as 30 personnes, évidemment, qui débarquent d'un seul coup, là, il faut qu'on s'organise. Et par exemple, j'ai travaillé avec un centre aéré en périphérie de Nancy, tu vois, où là, je leur ai dit, écoutez, le plus simple, c'est encore que je vienne dans vos locaux et que je vous dédie une journée pour organiser tout ça. Ça s'est super bien passé. Et là, justement, ils m'ont dit « Ah, mais c'est vraiment incroyable. On refait un club nature cet été dans les Vosges. » Alors, je dis « Ok, pas de problème. Hop, on va dans les Vosges. Cette fois-ci, on va aller chercher des minéraux cet été dans les Vosges. » Et je leur expliquerai comment s'est formé le montagne des Vosges.
Donc, le 14 avril, Club Dino avec Jean-Philippe Blouet. Comme il vous a dit, il vous accueillera. Moi, je vous préconise quand même de réserver quand même parce que si... La bourse aux poissons attire beaucoup de monde. On a beaucoup d'ateliers pédagogiques. On vous en reparlera prochainement. Donc, beaucoup d'enfants.
Donc, pour ce faire, vous allez sur le site web club-dino.fr et puis vous avez toutes mes coordonnées.
Voilà, vous lui téléphonez. Il note ça sur son petit calepin qu'il a juste devant nous. Là, c'est un gros cahier d'école. Et que vous dire de plus ? Hein, recherchez, venez même avec vos petits cailloux pour voir, chercher, commencer à regarder à gauche, à droite.
Ah oui, ça j'adore, si les gens ont des fossiles qu'ils cherchent à faire identifier, ça j'adore les gens m'amènent leur découverte, c'est un moment interactif, c'est vraiment sympa.
Ah, voilà, et on va vous faire rêver, on va vous faire pétiller.
Puis on sait jamais, peut-être que quelqu'un pourrait nous ramener un spécimen complètement extraordinaire.
Voilà, c'est le but du jeu, hein. Donc cherchez, trouvez, ramenez et repartez avec.
Ouais, expertise gratuite un docteur en géologie, c'est l'occasion.
Voilà, donc on aura le temps encore de vous en reparler. Dino Club, une vraie séance de paléontologue. Travaillez avec Jean-Philippe Blouet et vous verrez, c'est un amusement
y a aussi parfois des jeunes, tu vois, qui sont en terminale et qui se posent des questions sur leur orientation.
Ah bah oui, c'est pour petits et grands, hein,
comme j'ai eu l'occasion de faire d'avoir un parcours universitaire assez complet, d'avoir été dans une école d'ingénieur, d'avoir travaillé dans beaucoup de labos dans le monde, dans l'industrie et dans la recherche, je peux aussi répondre aux questions des gens qui voudraient travailler
dans le domaine. Une petite question, puisque si y a des gens qui ont trouvé une amanite qui est comme ça, qui n'est pas travaillé, ils peuvent la ramener aussi, non ?
Ils peuvent la ramener aussi. Alors après,
ce n'est pas trop grosse, bien sûr.
S'ils me ramènent un gros fossile, voilà, dans l'après-midi, je ne pourrais pas la préparer. Donc là, il faut qu'on en discute. Mais oui, que les gens amènent leur découverte et c'est avec plaisir qu'on discute.
Une petite expertise gratuite et repartez avec un trésor dans les mains.
De toute façon, en Lorraine, je te dis, il y a vraiment plein de fossiles. Donc voilà, il y a juste à aller.
On parle de fossiles, hein, ne ramenez pas votre grand-père ou votre grand-mère.
Jean-Louis, je te laisse la responsabilité de tes propos.
C'est une petite blagounette. Je suis grand-père, donc je peux vous le dire.
C'est bon, c'est bon. Si c'est de l'autodérision, t'as le droit, alors.
En tous les cas, à bientôt. La semaine prochaine, c'est pas encore bien décidé. Ce sera normalement les AT. On va parler du village. On cherche encore un nom pour ce village.
Oui, on cherche encore un
nom. Voilà, donc je pense que ce sera ça. Et puis, 15 jours après nos 15 jours, donc dans 4 semaines, on aura notre invité d'honneur, c'est-à-dire Patrice Costa, qui lui nous parlera justement de la faune volatile et de ses découvertes. Et puis si tu veux venir le jour-là.
Bah écoute, Patrice Costa, on se connaît, c'est un ami qui est venu au Spitzberg avec moi et qui va revenir cet été en tant qu'ornithologue.
Donc tu pourras revenir et puis on en reparlera un peu.
Bah écoute, si tu me réinvites à participer à l'émission, volontiers.
De toute façon, tu es amené à revenir puisque on a parlé du chercheur, mais maintenant il faudra.
Et puis on a mentionné mon frère, mais t'as pas eu l'occasion de l'interviewer aujourd'hui. Donc.
Bah oui, il est pas là. On aurait pu lui téléphoner, mais bon,
c'est un voyage une prochaine fois.
Il en voilà. Donc vous reviendrez tous les deux, puis là on en reparlera un peu.
Avec plaisir.
Voilà. Donc à bientôt, et puis dans 15 jours. Et toujours au fil de l'eau.
Voilà, on se retrouve
merci.
Dans 15 jours. Merci à tous les deux et belle journée.
Merci.
Sous le soleil.
De Metz à Thionville avec RPL 89.2. 89.2.